Exactement.
Alors attendez, je me gratte les couilles viteuf.
Ouais, c'est trop d'informations.
C'est trop d'informations. Bon, on va pouvoir y aller. Nous sommes mercredi 13 mai 2020. Vous n'êtes plus confinés. Enfin, presque. Enfin, pas encore. Enfin, c'est pas grave. Voilà!
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix,
Bonsoir.
bonsoir Mecton,
Salut.
et bonsoir Zergy.
Salut. On n'est plus le seul bar ouvert de France, ça va pas être bon pour notre audience.
Ah non, ils ont pas réouvert les bars en
Ah, ils ont pas
France.
encore réouvert les bars.
Ah,
Sauf peut-être en Normandie.
Alors, pas en Île-de-France, en tout cas, ma grande déception.
Ouais, ça me c'est un peu triste, mais on va y arriver. Voilà.
Excellent.
Donc on est bon. On est parti. We're in business, comme disent nos actionnaires américains. Donc.
Jingle live, on est des pros.
Ah non, mais attends. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, il y a 2 semaines, on avait eu un petit souci technique, hein, c'est savoir que les noms des jeux étaient parfois un petit peu compliqués. Du coup, cette semaine, on a décidé de parler de... Ah, oui. D'accord. Donc en fait, c'est peut-être une connerie aussi, hein.
D'un des jeux avec le nom le plus long du monde.
Et encore, on tente pas de faire le nom japonais de Beten Ketos 2. Hein.
Ouh là là, alors moi je veux le savoir. Hein. Si tu es capable de le prononcer en direct, je veux le savoir.
Bah, faut que je retrouve, mais on passe un moment
vieux.
Ouais.
Bref, donc nous allons parler de la série Baten Kaitos, les 2 épisodes GameCube. La GameCube qui est la console de l'amour, donc il n'y a pas de problème. On a presque tous fait nos devoirs. Voilà. Tout le monde a fait ses devoirs.
Moi, je les avais fait il y a 15 ans.
Tu les avais fait il y a 15 ans. Moi, je n'avais jamais lancé Baten Kaitos. Je l'ai. Je l'ai eu dans des circonstances très étranges, mais je l'ai. Je ne l'avais jamais lancé, donc là, je l'ai lancé. J'y ai joué, j'ai été jusqu'à là. J'ai fini la deuxième île, je suis très content. Très content de moi. Donc, genre, j'ai 10 heures de jeu sur les 60, hein, mais je suis très content quand même.
C'est ça.
Bref, mais on va commencer tout de suite par les restes du monde. Puisque Nintendo imprime du pognon.
Exactement.
En masse.
En masse. Et de manière complètement indécente, j'ai envie de dire.
Dans des proportions qu'on n'avait pas connues depuis la Wii il y a 10 ans.
En gros, c'est ça. Bénéfice opérationnel à 3 milliards d'euros, soit l'équivalent du lancement de la Wii en pleine période où la DS imprimait du pognon.
Ouais, c'est dingue.
Tout va bien. On a 13,4 millions d'Animal Crossing en 6 semaines, c'est-à-dire que ça ne compte pas, ça compte jusqu'à mars, je crois. Donc ça compte pas ni le mois d'avril ni le mois de mai.
6 semaines, si, ça va jusqu'à fin avril.
C'est jusqu'à fin avril.
6 semaines,
oui, oui.
Non, parce que c'est à partir de la sortie. Ah non, la sortie japonaise était en même temps que le reste.
Mais en fait, c'était en mars. Mais c'est du coup, c'est 13 millions sur 6 semaines et je crois que c'est 11 millions juste sur la fin du mois de mars. Et 50% des maths.
Waouh!
D'après la réunion, la questionnaire aux actionnaires. Mais toujours intéressant ce Q&A à lire si vous avez l'occasion.
Tout à fait, et puis d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a eu un gros bond du démat, ce qui était quand même à attendre. Parce que effectivement avec le confinement, il y avait tout un tas de choses qui étaient quand même nettement moins accessibles physiquement.
Oui, et puis Animal Crossing est un jeu qui se prête bien au démat aussi.
Oui, c'est tout à fait vrai, puisque c'est un free-to-play qui n'est pas gratuit, donc...
Exactement.
C'est bâtard, mais voilà, je fais ce que je veux. Donc là, je vais quand même citer quelques chiffres un petit peu au hasard, mais on a quand même des choses
le
un
2,
peu...
Le 8,
le
7,
14...
Le 17,
stop.
Millions.
Non, c'est bon, cette blague, voilà, stop. Donc, c'est un peu le bordel dans mon truc, là, je sais pas pourquoi.
Pourtant, c'est plutôt clair, moi j'ai le conducteur sous les yeux.
Moi hein. Aussi, mais il y a deux, trois trucs, c'est le bordel. Attends, il me manque un machin, bouge pas, attends. Donc, tu vas entendre mon clavier, c'est pas grave.
Voilà,
parce que j'avais pas ce qu'il fallait, bref. Donc c'est parfait. Breath of the Wild, meilleure vente de la série.
Alors plus que Twilight Princess, qui était l'ancienne meilleure vente, et on parle de ventes combinées de Twilight Princess sur GameCube et Wii.
Ah mais là attends, on parle de ventes combinées sur Wii U et Switch, attention.
Oui, bravo. Je pense que juste la version Switch, ça suffit. Hein.
Je pense aussi, oui. C'est triste à dire, hein, mais je rappelle qu'il s'est vendu plus de Breath of the Wild que de Wii U.
Oui.
Elle n'est pas cool. Alors on peut faire un combat d'infirme, hein, ceci. Est-ce qu'il s'est vendu plus de Breath of the Wild sur Wii U que de Twilight Princess sur GameCube?
Eh ben écoute, je ne sais pas, honnêtement. Il me semble que pour la version GameCube de Twilight Princess, de ce que je constate en termes de prix de vente et de revente, la version GameCube a dû moins se vendre que la version Wii, ça c'est certain. D'autant plus qu'il me semble qu'elle est sortie 2 ou 3 semaines après.
Elle est sortie la semaine d'après.
Oui.
Voilà.
Ouais, pas en même temps.
Pas en même temps, donc il a dû quand même se vendre un petit peu moins, mais pas tant que ça. C'est pas non plus le collector ultime, donc je dirais que si c'est un quart, trois quarts, c'est peut-être le max.
Surtout qu'à l'époque, la Wii était en rupture de stock de manière pratiquement continue pendant 3-4 mois, et donc ceux qui voulaient jouer à Twilight Princess, qui avaient une GameCube, forcément, si tu peux pas avoir la version Wii, tu prends la version GameCube, tu t'embêtes pas, quoi.
Oui, clairement. Surtout que la version Wii n'apportait finalement pas grand-chose. Enfin, il y a le motion control, évidemment, mais...
Il y avait ligne droitier.
Ouais. Oui, voilà, mais c'est surtout... Non, mais alors, c'est le seul truc qu'elle apportait réellement pour nous autres Européens... C'est pas canon, oui.
Alors, c'est une insulte à la représentation des gauchers dans le jeu vidéo aussi. Hein.
Stop.
Et je me sens insurgé depuis cet épisode. Hein.
Arrêtez, non, mais je me suis senti sous-représenté, c'était un scandale.
Pareil.
Putain, on a deux gauchers, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission de Gaudriol?
7 ans, il se rend compte qu'il y a des gauchers infiltrés, c'est bien.
Notre peuple vaincra.
Je savais qu'il y avait des rouquins, mais pas des gauchers, quoi. Je veux dire.
Il y en a un qui est déconné.
Putain, le mec, il a le cumul des mandats, donc il n'a pas d'âme, et en plus.
J'ai eu une âme négative.
Bref. Putain, cette émission. Et on a pas, on a fait quoi? On a fait un demi-sujet. Bref, donc Breath of the Wild, meilleure vente de la série, 17 millions d'exemplaires.
Plus que de Wii U, donc.
Voilà, même chiffre que Super Mario Odyssey. Donc pour une fois que Zelda fait le même chiffre que Mario, alors que Mario d'habitude...
C'est des chiffres bien meilleurs.
C'est des chiffres largement meilleurs.
Alors les Mario 3D, c'est un petit peu moins vrai, parce que c'est moins populaire, mais les Mario 2D, notamment la vague New Super et les deux premiers, ceux sur Wii et DS, ont fait des chiffres assez astronomiques.
Oui, c'est vrai.
Alors, ça donne quoi au Japon, Zelda? Parce que de mémoire, c'est une série qui se vend un peu mieux au...
Ça s'est très bien vendu au Japon. Hein. Alors, faudra regarder les chiffres de vente genre, sur les chiffres japonais, mais Zelda Breath of the Wild revient de temps en temps et il y a des chiffres plutôt corrects. Hein. Vu qu'à quel point les Japonais sur Twitter s'amusent à faire péter le moteur physique du jeu avec les ralentis et compagnie.
Tout à fait, non mais je pense qu'il a dû, correctement se vendre. Alors après, faudrait voir si c'est la meilleure vente de la série au Japon, il y a quand même de bonnes chances que ce soit le cas. Parce qu'en moyenne, voilà. Pokémon Bit et Couteau, meilleure vente de la série, en tout cas pas très loin. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore éclaté la meilleure vente de la série qui, me semble-t-il, était les remakes genre Alpha Saphir et... Ruby de feu ou je sais pas trop quoi là, les remakes de la première gêne
Silver genre, et Gold
un truc comme
Gold.
Ça doit être toujours ça la meilleure vente, mais il est juste au cul genre.
Eh bien.
Donc voilà, ça fait un peu mal. 21 millions de consoles vendues en une seule année fiscale.
j'espère que t'as mal. Autant que la GameCube.
Au total, oui.
Le total genre 1 ou 2 millions près, la GameCube est genre à 22 ou 23 millions. Il y a eu plus de Switch vendus en une année que de GameCube. Enfin, quasiment autant de Switch vendus en une année que de GameCube sur 5 ans.
Et c'est surtout que, si j'en crois notre petit camarade, enfin tonton Oscar, il n'y a pas beaucoup de consoles qui ont vendu plus de 20 millions d'exemplaires en une année fiscale. Et en gros, lui, il citait PS1, PS2, PS4 et DS. Donc tu vois, c'est un club qui est quand même très fermé. Visiblement, même la Wii n'a jamais vendu 20 millions de machines en une seule année fiscale, d'après ce que j'ai compris. Alors, j'ai pu comprendre de la merde aussi, hein, c'est possible. Y en a deux ou trois qui font quand même très 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 mal au cul. Mario Kart 8 Deluxe, donc juste la version Deluxe, donc juste la version Switch.
Sachant que la version Wii U, c'est quand même bien vendu pour le support.
Je crois que la version Wii U, il n'y a pas un taux d'attachement de 1 pour 1, mais c'est genre 7 ou 8 millions d'exemplaires, c'est-à-dire c'est quand même...
C'est quasiment 50% du parc de consoles.
Ouais, voilà, c'est énorme. Mario Kart 8 Deluxe, 24 millions d'exemplaires.
Donc, plus que de GameCube.
Là, plus que de GameCube. Super Mario Party, meilleure vente de la série, plus de 10 millions d'exemplaires. Pour un épisode qui est certes très bon, mais qui reste quand même...
Qui est franchement pas le meilleur.
Un peu court en contenu.
Ouais.
Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un très bon exemple. On s'amuse beaucoup sur Super Mario Party. C'est un très bon Mario Party, y'a pas de souci là-dessus.
Mais j'attends toujours un plateau en DLC, perso.
C'est ça, voilà. Il y a que 4 plateaux au total. Enfin, c'est quand même un peu
lèche. Chiche.
Et Splatoon 2, 10 millions d'exemplaires. Donc, évidemment, plus que la version Wii U. Hein.
Ça fait plaisir.
Et ça fait plaisir. Voilà, donc... Miaou, voilà.
Nintendo va mourir.
Nintendo va mourir, tous les voyants sont au rouge, je pense qu'on peut le dire. Visiblement, chez Nintendo, c'était plutôt l'enthousiasme concernant ses résultats, mais par contre, un certain pessimisme derrière. Parce que visiblement, les mecs s'attendent quand même à ce qu'avec le confinement qui a quand même duré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des pertes de revenus, ils s'attendent quand même visiblement à ce que la crise économique les frappe comme tout le monde.
C'est plutôt logique, hein.
Bah, ça reste une industrie du divertissement, donc effectivement, début du confinement, ça marche, ça me paraît logique. Mais dès que les gens ont plus de pognon, bah, le divertissement, c'est quand même un des trucs qui saute en premier, quoi. Donc,
Généralement, ouais, tu préfères bouffer plutôt que jouer du jeu vidéo. Hein.
C'est un peu ça. Donc je pense qu'ils sont pas fous et qu'ils s'attendent effectivement à ce que ça ralentisse un peu, d'autant plus que leurs propres projets ont aussi été impactés par le confinement et les mesures de télétravail, bah, notamment.
Ça a été dit dans la réunion des actionnaires que des titres étaient prévus pour le reste de l'année, donc il y aura des choses après Xenoblade Definitive Edition qui sort dans 2 semaines.
Voilà,
mais,
voilà.
Mais que les circonstances actuelles au niveau de Nintendo, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, puisque je rappelle aussi que la branche américaine, notamment sur tous les aspects de localisation, est aussi très active dans le développement des jeux depuis quelques années. Il y a quand même des ralentissements au niveau de leur développement, et du coup ils sont pas capables de donner des dates précises sur les plannings. Et c'est ce qui relèverait des rumeurs comme quoi en juin il y aurait peut-être pas de Nintendo Direct, contrairement aux autres années.
Oui, parce qu'ils auraient été obligés de retarder des trucs, ce qui serait pas choquant dans le principe.
Voilà, donc on ne sait pas ce qui sortira à la fin de l'année.
Le deuxième écran de Metroid 4.
On aura cette fois-ci
le menu.
Le choix de la sauvegarde.
Super. Oui, je le souhaite de tout cœur.
Non, en fait, ils vont te mettre le logo du développeur avant l'écran titre.
Unreal Engine 4.
On a déjà le logo du développeur, si on fait un montage avec la vidéo de l'écran titre, ça devrait marcher. Hein.
Ah non, mais tu peux faire un teaser de bâtard avec ça. Hein.
C'est ça.
Bref, la deuxième actu un petit peu rigolote, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, c'est marrant, c'est passé un peu sous le radar, mais il y avait un projet un peu foufou de décompilation de Super Mario 64. Alors il faut savoir que Super Mario 64, qui est le premier jeu de la Nintendo 64,
je pense. Oui.
De toute façon, il est sorti avec la machine, donc c'est un des premiers jeux en tout cas.
Celui dont tout le monde se souvient quand ils ont acheté le jeu.
Ah oui, parce que c'est vrai que Pilot Wings 64...
Le jeu pour lequel la N64 a été construite.
C'est un peu ça, ouais. La manette surtout, hein. Ça se voit beaucoup sur la manette. Hein. On a fait le jeu d'abord, on a fait la manette après. Bref, donc le jeu n'a jamais été compilé sur la cartouche de manière optimale. En fait, les drapeaux d'optimisation qui sont d'habitude utilisés dans les compilateurs pour faire un code qui va plus vite n'ont pas été utilisés pour Super Mario 64. Une des raisons avancées par les gens qui spéculent autour de ça étant de dire il est possible que à ce moment-là, les outils de développement pour Nintendo 64 n'étaient pas encore tout à fait stables. Et donc le fait de mettre des optimisations créait plus de bugs qu'il n'en résolvait. Donc en fait, la cartouche qui a été expédiée en magasin était un code non optimal, et du coup il y a des gens qui se sont dit, bah en fait, on a le code assembleur, on sait qu'il n'est pas optimisé, donc ça doit pas être si compliqué que ça de le décompiler. C'est-à-dire d'essayer de retrouver le code source C d'origine par rapport à ça.
C'est moins compliqué, on va dire.
C'est moins compliqué, parce qu'effectivement, l'assembleur est, on va dire, moins optimal. Donc,
ça reste un boulot de bâtard.
Mais... ça reste un boulot de bâtard. Alors après, les mecs ont utilisé tout un tas d'outils qui vont commencer à faire des pré-décompilations, c'est-à-dire aller effectivement détouiller ça et le recréer des fonctions avec évidemment des noms de variables complètement cons et des trucs comme ça. Donc les mecs sont obligés d'aller retravailler ça pour avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc il y a quand même un gros boulot humain derrière. Mais il y a quand même des outils qui permettent d'optimiser un petit peu ça. Et donc les gens qui sont arrivés à décompiler complètement le jeu et à donc recréer un programme C qui, alors, n'est pas le programme d'origine de Nintendo, parce qu'on l'a pas, hein, fortiori, et on l'a pas du tout, mais qui est ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est-à-dire qu'au moins les mecs ont toutes les fonctions, toutes les variables, et quand ils compilent ce code C pour Nintendo 64, ils réobtiennent exactement la même ROM au bit près. Donc ils savent que ils ont le bon code.
Voilà. Ils n'ont pas les commentaires d'Iwata.
Mais... ils n'ont pas les commentaires d'Iwata, ce qui est dommage. Ils n'ont pas les remontrances de Miyamoto. C'est triste. Ils n'ont pas tout un tas de trucs. Hein. Ils ont pas, voilà, effectivement, il manque des choses à ça. On n'a pas vraiment le code source d'origine, mais on a ce qui s'en rapprocherait, une reconstruction.
En gros, c'est un code qui fait la même chose, mais pas écrit pareil.
Voilà. Mais écrit le plus possible pareil par rapport à l'original. Quand même préciser. Et du coup, il y a des mecs qui se sont dit, bah voilà, maintenant qu'on a le code C, bah, on va faire un portage sur PC. c'est-à-dire pas de l'émulation, mais un portage, donc recompiler le code pour PC, adapter le code pour qu'il puisse tourner sur un PC moderne. Et évidemment apporter tout un tas de trucs entre deux, c'est-à-dire un deuxième stick analogique, parce que pourquoi pas. T'as des mecs qui ont fait ça, qui ont compilé le jeu en disant bah tiens, on va dire qu'au lieu des boutons C, on va utiliser un deuxième stick analogique et on va faire bouger la caméra de manière fluide.
T'imagines, sur la jaquette, t'as juste à dire maintenant tu peux contrôler l'Akitu.
C'est un peu ça. C'est exactement ça en plus. Il y a des mecs qui se sont amusés à mettre un mode 16/9, parce qu'après tout, bah, les mecs maîtrisent le moteur de rendu, ils savent ce qu'on peut faire, donc il n'y a pas de problème, on met du 16/9. Et tout un tas d'autres trucs, évidemment, il y a tout un tas de gens qui ont dit que pour la communauté du modding, ce serait assez extraordinaire. Et évidemment, Nintendo a striké tout ça, bien gentiment.
Ils ont envoyé Yakuza en quelques jours.
Voilà, alors il faut savoir que visiblement, ce qu'ils ont striké, c'est l'exécutable lui-même compilé. Parce que ça, c'est une violation de copyright.
Mais pas le source.
Bah, le source décompilé, techniquement, même aux États-Unis, qui pourtant a une loi extrêmement conne sur le sujet, hein, on va dire les mots tels qu'ils sont, le fait de décompiler un programme à des fins de compatibilité ou d'étude du code n'est pas quelque chose d'illégal.
Alors, donc, okay. Si je comprends bien, s'il change les assets, on peut avoir un équivalent Mario 64 sur PC.
Alors, potentiellement, sachant qu'aujourd'hui, pour le compiler...
Changer les niveaux.
Alors, faut changer les niveaux, faut changer quand même beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire, ouais, tu pourrais réutiliser le moteur, mais je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt.
Ouais, c'est quand même le charme de Mario 64 aussi, des niveaux un peu bizarres, et puis la nostalgie qui va avec. Hein. De Mario crier et tout. Hein.
Oui, clairement. Mais ce qui est intéressant plutôt, la perspective que moi je trouve intéressante, c'est alors déjà, effectivement, il y a la perspective du portage. Alors, notamment, il y a un portage sur Switch.
Oui, qui a été réalisé dans la foulée, hein, et qui est natif, hein, c'est pas de l'émulation, c'est ça tourne comme un logiciel Switch classique.
Exactement, mais comme le Super Mario 64 PC n'est pas de l'émulation, hein, c'est vraiment, on a recompilé le code C qui avait été décompilé de l'original, on l'a juste recompilé sur PC, donc on a fait marche arrière, marche avant.
Une fois que t'as le source, tu le compiles avec la cible que tu veux, on pourrait avoir un Mario 64 Mega Drive.
Alors en théorie, parce qu'après il faut quand même...
Ça exploserait, visiblement...
Oh putain, les musiques, quel enfer.
Visiblement, le portage PC n'était pas si simple que ça, parce qu'en fait, ça reste le code d'un jeu qui est quand même très spécifiquement conçu pour du matériel. Okay. C'est du code C. On n'est pas certain, apparemment les mecs qui ont fait le portage ne sont pas certains que tout ait été codé en C. Il est possible que certaines fonctions aient été codées directement en assembleur.
Ouais, ça. Donc, c'est très japonais d'époque. Ouais. Ouais.
Ils les ont décompilés, ils ont réussi à faire un code C qui permet de rendre ces fonctions-là, mais ils ne sont pas certains que, effectivement, ce ne soit pas le code d'assembleur d'origine. Ce ne serait pas choquant. Dans le principe. Et pareil, il y a beaucoup de fonctions et d'appels de fonctions qui sont très spécifiques à l'architecture de la N64, ce qui est logique.
Okay.
Du coup, le compiler pour PC, en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des morceaux de code qui ont dû être créés quasiment de zéro. Et l'idée, c'est que pour le compiler aujourd'hui, alors vous pouvez le faire vous-même, vous allez sur GitHub, vous allez sur le projet, il vous faut quand même une ROM de Mario 64 qui n'est pas fournie. Ce qui paraît logique, parce que ça, ce serait vraiment une violation de copyright, en l'occurrence. Donc il faut quand même disposer du code source. Mais il faut quand même disposer de la ROM source pour pouvoir y appliquer le décompilateur, pour pouvoir y appliquer ensuite le compilateur PC avec tous les patchs nécessaires pour le faire tourner. Donc ce qui a striké Nintendo, c'est tous les sites qui hébergeaient l'exécutable et éventuellement la ROM de Super Mario 64, parce que ça c'est illégal par essence. Maintenant, ils peuvent difficilement vous empêcher de le reconstruire vous-même. C'est l'idée.
Alors, petit troll, il tourne en 4K et il est beaucoup plus joli que les remakes qui ont été faits en Unreal Engine.
C'est de la merde.
Voilà.
Enfin, pour les remakes, en tout cas.
Donc, ça fait plaisir. Donc, par contre, le jeu est toujours capé à 30 FPS. Il y a des gens qui sont en train de regarder pour enlever cette limitation dans le code source et donc faire un Mario 4K 144 Hz.
En VR.
En VR.
La prochaine fois avec le Witch Time de Bayonetta et le ralenti de Vanquish.
Et JBC nous dit et Knuckles.
Et je pense que c'est ce qu'il faut. Le Knuckles, il manque beaucoup.
C'est ça. Je pense qu'il manque Sonic dans ce Mario.
Oh putain, arrêtez, s'il vous plaît. Mais il manque Sonic, qui te poursuit en permanence en faisant un bruit chelou et un rire démoniaque. Voilà,
on remplace Bowser par Sonic.
C'est parfait. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours. Visiblement, il y a des gens qui se sont attaqués. Alors ce projet-là, décompilation de Super Mario 64, il date en fait vachement. Beaucoup, beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que le projet a démarré il y a pratiquement 2 ans. Les mecs ont commencé à effectivement regarder ce qu'ils pouvaient faire. Et visiblement, il y a quelques mois, une partie de cette équipe-là a forqué. Hein, c'est-à-dire qu'ils se sont barrés, ils ont fait autre chose. Pardon. Et ils sont en train d'attaquer le code d'Ocarina of Time pour essayer de le décompiler aussi et de voir ce que ça donne. Alors visiblement, ça va être beaucoup, mais alors beaucoup plus compliqué. parce que, de ce que j'ai compris, Ocarina of Time, c'est certain qu'il y a des trucs qui ont été écrits directement en assembleur. Donc on a déjà le code source, finalement, mais du coup, c'est très compliqué d'arriver à
le comprendre, quoi.
À le comprendre, et surtout derrière, arriver à faire un portage de ce truc-là, ça va être beaucoup plus compliqué si c'est du code machine directement. Et surtout, le code d'Ocarina of Time, lui, il a été compilé avec les optimisations qui vont bien, donc il est bien, bien, bien pire en termes de compréhension du code compilé pour arriver à passer de l'assembleur à la fonction C, très compliqué. Voilà. Donc on sait pas ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'Ocarina of Time, ce serait intéressant. L'idée derrière ces projets, à l'origine en tout cas, étant de mieux comprendre le code source du jeu, pour mieux comprendre éventuellement ses bugs, pour mieux comprendre certaines mécaniques et certaines fonctionnalités, éventuellement pour trouver d'autres bugs. Apparemment, il y en a certains qui ont été trouvés de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a trouvé que en réalité, il y a certains comportements qui n'étaient pas normaux. Alors notamment, je pense que l'histoire de la fumée, tu sais, qui est pas la bonne quand Mario se brûle le cul.
La fumée toute noire, là.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Je pense que c'est grâce à ce projet-là qu'on l'a trouvé. Pas eu de confirmation officielle, mais j'ai le sentiment que c'est ça.
Ouais, ils ont trouvé que le fichier qui était appelé était pas dans le bon format et ils ont corrigé le truc.
Voilà, donc c'est des trucs à la con, mais effectivement, c'est étonnant. Étonnant et intéressant. Voilà. Ce sera tout pour la petite actualité d'aujourd'hui. On va. Parce que tout le monde est enfermé, c'est difficile d'avoir une actu. On va, comme nous faisons une spéciale Baton Kaitos, parce que nous voulons parler aussi un petit peu de son développeur en Ubisoft, on va écouter Between the Winds, qui est, alors je n'ai aucune idée, c'est le thème de la deuxième île, troisième île.
Alors en fait, c'est le thème de la carte du monde de Baton Kaitos.
Ah, quel con, oui, effectivement, maintenant que tu le dis.
Il y a une musique que je trouve extrêmement reposante, c'est pour ça que je l'ai proposée. Hein.
Oui, tout à fait. Elle est très bien. Je n'ai pas le compositeur, je n'ai rien du tout parce que je n'ai pas fait mes devoirs.
Monsieur Motoi Sakuraba, qui est compositeur sur les deux jeux, donc on en reparlera un moment.
Voilà, et bien comme ça au moins on a tout. Ah, sauf que j'ai pas mis ce qu'il fallait. Attends, j'arrive. Bouge pas, je couperai au montage. Voilà.
Attends, je vais dire le nom complet des deux jeux et je pense que tu auras le temps.
Ah, si tu commences maintenant, ouais, c'est fini en fin d'émission, c'est bon.
C'est bon. Bon, voilà, on s'écoute donc Baton Kaitos Between the Winds. Ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour !
On va parler de ce jeu qui est donc sorti sur GameCube, qui était une collaboration entre Monolith Soft, que nous connaissons bien maintenant puisque c'est Xenoblade, et on va arrêter de dire Xenoblade Chronicle, on va le dire à la japonaise.
Ouais.
Xenoblade.
Xenoblade.
Xenoblade. Xenoblade. Monado. Voilà. Tri Crescendo, qui, alors je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre, eux, en fait. Voilà.
Pour faire un petit peu l'historique du studio, donc Monolith, c'est des anciens de Square qui ont notamment bossé sur Xenogears et Chrono Cross, qui se sont barrés parce qu'ils se sentaient pas, à l'aise.
Et Xenosaga, ou ça n'a rien à voir?
Alors, Xenosaga a été fait, Monolith a été créé pour faire Xenosaga en collaboration avec Namco. Enfin, c'était mon point d'après. Donc, le monsieur le créateur de Xenoblade, dont le nom m'échappe, Takahashi, je crois.
Jean-Michel Xenoblade,
donc ouais, Takashi, s'était barré de chez Square avec quelques-uns de ses petits camarades, dont alors c'est celui qui deviendra le directeur artistique et le concepteur général de Baton Kaitos, donc Yasuyuki Oné, qui est notamment connu pour la direction artistique de Chrono Cross. Très bonne direction artistique de l'époque PlayStation.
Ah putain, mais maintenant que tu le dis, c'est évident, oui.
Ouais, alors en plus quand t'as fait les deux jeux, les parallèles sont assez évidents au niveau de l'aspect. Donc ils se barrent avec quelques-uns de leurs potes de chez Square pour fonder Monolith Soft avec les sous-sous de Namco à l'époque qui n'appartenaient pas encore à Bandai totalement et avec ces sous-sous ils se lancent dans la création de Xenosaga. Donc qui est un projet censé faire plus ou moins suite à Xenogears et qui se passe dans le même genre d'univers un petit peu science-fiction. Le truc c'est qu'à côté Namco, ils veulent rentrer un petit peu dans le RPG game et profiter un petit peu du fait que c'est un genre qui marche très très bien depuis les Final Fantasy de la PlayStation. Donc ils commandent un second jeu et coup de peau. Donc Monsieur Oné, qui lui, il bosse sur Xenosaga, mais il est un petit peu moins chaud. Il a envie de faire son truc, il a des idées. Et il lance le projet qui viendra plus tard, Baten Kaitos. Le truc, c'est que comme les équipes de Monolith sont surtout sur Xenosaga, ils s'arrangent un petit peu avec Namco pour trouver des gens pour leur filer un coup de main, et donc ce sera l'équipe de Tricrescendo. Tricrescendo, donc, qui lui est un studio qui est avant tout spécialisé dans la partie sonore des jeux vidéo, et qui a bossé sur pas mal de RPG, notamment du studio Triace, parce que c'est des potes à eux. Donc ils sont surtout beaucoup plus dans la partie sonore que développement. Ils vont développer plus tard un jeu qui s'appellera Eternal Sonata qui sortira sur Xbox 360.
C'est très chouette celui-là d'ailleurs.
Plutôt sympa mais un petit peu limité. Et du coup donc grâce au sous-sous de Namco, Tricrescendo et Monolith se retrouvent à bosser ensemble sur le projet. Monolith s'occupe de vraiment toute la partie artistique, visuelle, conception, scénario. Et c'est à Tricrescendo que reviendra de s'occuper des parties sonores, techniques et des combats. Le fait d'ailleurs que ce soit Tricrescendo à la partie sonore fait que ce sera Motoi Sakuraba qui fera les compositions des deux épisodes. Et c'est important, c'est important parce que moi j'aime beaucoup les bandes son de Baten Kaitos, ce sont probablement mes bandes son préférées de jeux vidéo.
Donc voilà, elles sont très 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 bien. D'ailleurs on va écouter, alors j'ai vraiment cru que c'était un troll au départ, hein, pour de vrai. Hein.
Pourquoi ?
Le fait d'avoir mis le thème des combats, parce que je pense que sur 60 heures de jeu on doit l'entendre à peu près 35.
Ouais.
Donc c'est vrai que voilà, il est très très chouette. Hein. Heureusement, parce qu'un thème de combat raté, quand effectivement c'est probablement le morceau que tu entends le plus fréquemment dans le jeu, ne serait-ce que parce que il n'y a pas de combat aléatoire, on voit les ennemis sur la carte. Le problème étant que les ennemis sont parfois beaucoup plus larges que le chemin.
C'est souvent ça, ouais.
Donc en fait, tu peux zapper les combats, hein. Il faut avoir des échasses, sinon ça marche pas.
Pour le coup, le thème de combat de Baten Kaitos, je m'en suis quasiment jamais lassé. On l'écoutera après, parce que c'est la prochaine pause musicale. Moi, je te trouve très réussi. Ce qui est pas plus mal, parce qu'en plus d'être récurrent, les combats sont aussi plutôt longs. Et je pense qu'on en parlera quand on parlera un petit peu du système de jeu.
Oui, tout à fait. On va peut-être pas commencer tout de suite par le système de jeu. Moi,
juste pour finir sur l'historique du jeu, donc le jeu sort en décembre 2003 au Japon et sortira le 1er avril 2005 en France. Et c'est une petite blague un petit peu rigolote, puisque en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Baten Kaitos en fait est un nom arabe qui a fait référence à une étoile de la constellation, alors je crois que c'est la constellation de la baleine ou du cétacé, donc un animal marin. Qui n'est pas exactement un poisson, évidemment. Et en fait, le terme exact de mémoire, Baten Kaitos, signifie alors soit la queue de la baleine, soit le ventre de la baleine. Et c'est un point important, puisque dans le monde de Baten Kaitos, il y a une baleine qui est une espèce de dieu.
Oui, c'est la fameuse, les quatre éléphants qui supportent la couronne du monde, qui elle-même est juchée sur une tortue.
Je rappelle que le monde est plat. Comme on l'a prouvé dans l'émission Animal Crossing, Cédric. Comme il a été prouvé dans l'émission Animal Crossing.
Tout à fait, nous l'avons démontré en direct. Je pense que pour l'historique, on a quand même fait un bon tour là.
Ouais.
Oui. Du coup, ça, effectivement, ça fonctionne comme un RPG tout à fait standard. Alors moi, je l'ai eu il y a fort longtemps. J'ai eu une version journaliste quasiment à sa sortie, quelques semaines après sa sortie, et que j'avais filé à mon frangin en fait, et j'ai jamais touché au jeu, donc je l'ai lancé pour la première fois il y a deux semaines, quand on a dit tiens, si on se faisait une spéciale Baten Kaitos, je me suis dit allez hop, je mets la galette dans le mariage disque et on est parti. Et en fait, moi, il y a deux choses qui m'ont un peu frappé. D'abord le rythme du jeu qui prend son temps. Au début, c'est quand même très... Voilà, le truc prend bien son temps, il faut bien se poser des questions et tout ça. Donc si t'as envie de partir tous azimuts, ça ne marche pas, hein. Faut pas faire ça. Ça ne fonctionne pas de toute façon. Et le deuxième truc, c'est que ça fait vraiment effectivement très 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 RPG japonais, PlayStation, avec les décors pré-rendus, les personnages en 3D qui se détachent très nettement, surtout quand t'as... Alors moi là, j'y ai joué essentiellement sur Dolphin, donc sur émulateur, parce que...
Ça se donne encore plus.
Voilà, mais du coup, j'ai quand même rebranché la GameCube pour voir un petit peu ce que ça avait comme rendu, donc j'ai branché sur un OSSI pour voir, et en fait, oui, une fois que l'image est en RGB, bien clean et en HD, ça se voit. C'est vraiment... Oui. Voilà.
Je confirme.
Les décors sont de très 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 bonne qualité. C'est un univers qui est assez assez prenant, parce que c'est il y a un côté un peu fascinant dans le fait d'avoir un univers très coloré mais finalement très détaché de la réalité.
Surtout, il y a des grosses particularités, parce qu'on n'a pas parlé un petit peu de l'univers de Baten Kaitos. C'est un univers qui est plutôt original pour un RPG japonais, ne serait-ce déjà en termes de direction artistique. On n'est pas dans les clichés un peu habituels de Japanime. On est vers quelque chose d'un peu plus tourné vers la culture, un petit peu ce qu'on appelle les musiques du monde. On est un petit peu dans cet esprit-là au niveau de l'esthétique visuelle. C'est-à-dire que c'est pas spécialement japonais, c'est pas spécialement européen. On sent plus qu'on est sur de l'Asie mineure, de l'Afrique, ce genre de choses.
Oui, ça fait très... Il y a des portions qui ressemblent énormément au Moyen-Orient, avec les gens qui ont des pantalons bouffants, des grosses manches. Ça fait très conte des mille et une nuits, en fait, je trouve, en termes d'ambiance. Il y a vraiment un truc un peu particulier là.
Et du coup, ce monde, c'est aussi un monde qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'en fait, dans le passé du monde, il y a eu une guerre qui a empoisonné la Terre, et pour que l'humanité survive... des magiciens ont envoyé dans le ciel des bouts de la terre pour créer des îles. Et en fait, les gens vivent sur ces îles. Donc déjà, c'est un monde qui se passe uniquement dans le ciel. Et on va visiter les différentes îles du jeu.
Ça fait, c'est des îles qui sont suspendues dans l'air. En fait, on dit des îles, mais en fait, c'est une mer de nuages. Et du coup, ça ressemble énormément à Xenoblade 2. Sur le principe, dans cette espèce d'univers un peu chelou, sauf que c'est pas des titans, c'est des vraies îles.
C'est l'impression que ça m'avait fait Xenoblade 2 d'ailleurs à sa sortie, mais pour le coup, je trouve que c'est plus réussi dans. Enfin, la patte artistique de Baten Kaitos est beaucoup plus prononcée, du coup, je préfère. Ça aussi, enfin, le fait qu'il soit dans le
pique gratuite contre Xenoblade 2.
Ouais,
je vous emmerde.
J'étais très gentil sur celle-là.
Je vous emmerde.
Non, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté titan, c'est-à-dire les îles vivantes. C'est des îles qui ont chacune leur petite personnalité, même si elles ont tout un trait commun. C'est-à-dire que tu sens que c'est une... comment dire, que finalement, c'est pas des îles qui ont chacune une personnalité très 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 différente. Elles ont quand même énormément de traits communs, mais elles ont chacune leur petite particularité.
Alors, c'est parce que t'as fait que les deux premières îles.
Ah, c'est peut-être pour ça, oui. C'est vrai que sur les deux premières, ça se voit vachement, en fait. T'as vraiment une espèce de continuité avec quelques petites différences.
Ouais, quand t'arriveras à la quatrième, on en reparlera de l'homogénéité.
Effectivement, je veux bien voir ça.
Il y a une île dans le jeu qui a des designs assez fous en termes de construction des villes. Qui est l'île de Mira, qui est la quatrième qu'on visite. Si vous avez l'occasion, je vous conseille de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Les mecs se sont un petit peu lâchés sur les designs de cette île-là. Et du coup, celle-là a énormément de personnalité dans le jeu. Ce qui est plutôt cool. Pour revenir sur les particularités un petit peu de l'univers, et qu'on a aussi une importance, mine de rien, dans le scénario du jeu, et aussi un petit peu dans son gameplay. Alors, moi, pour la première, c'est que en fait, toutes les personnes en fait, ont des ailes. Ils sont cachés, sauf notre héros qui n'en a qu'une seule, et une aile mécanique, et ça va avoir de l'importance évidemment dans le scénario de notre héros. Et la dernière particularité, c'est que en fait dans ce jeu, tout fonctionne avec des cartes, que ce soit le système de combat, mais aussi l'inventaire, puisque on obtiendra assez tôt dans le jeu des cartes qui permettent d'absorber l'essence des choses, donc qui s'appellent les Magnus. Et ce qui va être intéressant, c'est que même si on a absorbé l'essence de quelque chose, cette dernière peut continuer à évoluer. Et en fait, on a des cartes qui, au fur et à mesure du temps dans le jeu, vont changer d'aspect. Par exemple, du vin que tu obtiens va devenir du vinaigre.
Oui, tout à fait.
Le lait va se transformer en fromage. La banane va pourrir. Et c'est des petits trucs comme ça qui déjà donnent une certaine identité au jeu et aussi vont avoir une importance puisqu'on a besoin de faire évoluer certaines cartes pour accomplir des quêtes. Et je disais aussi que ces cartes servent aussi au combat et en fait des cartes de combat peuvent aussi évoluer, donc ça va changer parfois des stratégies.
Ah, je savais pas, donc du coup les bananes vertes deviennent des bananes jaunes, genre ?
Ouais, les bananes vertes deviennent des bananes jaunes, donc elles vont soigner un petit peu mieux et puis après elles vont devenir pourries, donc elles vont pouvoir empoisonner.
Ça, je ne savais pas, tiens, j'en suis. Parce que j'ai vu des bananes vertes, j'ai vu des bananes jaunes, mais enfin bref.
D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le speedrun 100% de Baten Ketos
dure 24 heures exactement, parce qu'il me semble qu'il faut 24 heures pour une certaine carte pour arriver à fromage pourri, un truc comme ça.
Il y a une carte qui met énormément de temps à se transformer, et en fait, bon, c'en est ridicule hein, pour un speedrun, mais c'est le genre de choses que le jeu met en place qui est très original et qui mine de rien, fait partie de son identité.
Et parce qu'effectivement, cette histoire de Magnus, on les récupère très très tôt dans le jeu, et en fait ça permet, alors à certains points seulement, on peut pas faire n'importe quoi, parce que sinon on mettrait très rapidement les déménageurs bretons sur la paille, hein, vous imaginez, vous prenez le canapé, tac, dans une carte, hop, dans la poche, problème réglé. Ce serait drôlement pratique d'ailleurs.
Oui.
Mais voilà, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, il y a certains endroits où on te dit, ah tiens, il y a de l'eau croupie, est-ce que tu veux en prendre? Et en fait, en prendre, c'est le
L'imprimer
dans la carte. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu l'as imprimé dans la carte, tu peux le ressortir finalement n'importe où. Voilà, le premier truc étant, je crois que tu absorbes un explosif pour aller exploser des rochers sur le chemin, ça doit être genre la troisième quête du jeu, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, on t'apprend à te servir de ce truc-là, et au bout d'un moment, bah, t'as des endroits où on te dit, ah bah il y a du lait, est-ce que tu veux en prendre? Tu peux dire oui, bah voilà, donc tu prends du lait, t'as du lait dans une carte. Et effectivement, les trucs évoluent au fur et à mesure. On va peut-être un petit peu du coup parler du système de jeu, puisque là on était bien parti, donc certains avaient dit un quart d'RPG, ce qui est peut-être un peu réducteur.
En tout cas, c'est
surprenant. Ouais.
La gestion d'un deck de cartes, et la construction et la gestion d'un deck de cartes en combat, c'est quand même un petit peu la base des combats de Baten Ketos.
Oui, et c'est un peu surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, le principe du jeu de base, en fait, c'est que tu as un deck, effectivement, tu as une vingtaine de cartes, exactement comme pour un... Alors, pas tout à fait comme pour un jeu de cartes type Pokémon, mais c'est pas très très loin, en fait. Donc tu as un deck avec, au départ, une vingtaine de cartes, et au fur et à mesure que tu gagnes des niveaux, ou que tu changes de classe, tu vas avoir de plus en plus de cartes dans ton deck, donc tu vas avoir la possibilité de faire des choses de plus en plus étendues. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur de ce deck, tu as des cartes de soins, des cartes d'attaque, des cartes de défense, alors des cartes qui font aussi les deux, qui peuvent faire... si attaque-défense ça existe, et alors pour une raison que je veux dire, donc les bananes vertes ça fait très mal quand on les envoie sur la gueule de l'ennemi, voilà,
mais ça soigne pas, hein.
Mais ça soigne pas, par contre une fois qu'elles sont jaunes elles soignent,
c'est donc, ça. C'est un truc comme ça.
Donc faut pas se chier dessus, c'est-à-dire que si tu soignes l'ennemi avec une banane jaune c'est pas bon. Je l'ai appris à mes dépens, hein, contre cette connarde araignée au départ, voilà, je me dis ah une banane, vite envoie-lui dans la gueule, et en fait non, c'est plus une verte. Bref, donc les bananes vertes ça fait très mal, c'est ça qu'il faut retenir. Bref, donc on a ce système-là, et derrière, chaque carte a évidemment une valeur d'attaque, une valeur de défense, et éventuellement des pouvoirs un peu spéciaux. Il y a des trucs de feu, de glace, d'eau, d'air, de lumière, de ténèbres, enfin voilà, il y a les Earth, Wind and Fire, un petit peu comme d'habitude.
Ouais, il y a des histoires d'éléments... Bah justement, il n'y a pas Earth dans le jeu comme élément, qui sont tous dans le ciel.
Ouais. Par contre, il y a lumière, ténèbres, ténèbres, eau, glace, et ainsi de suite.
C'est un peu les duos d'éléments habituels, et en fait c'est important puisqu'il y a des ennemis qui vont être résistants à un élément, mais sensibles à un autre. Et du coup, bah, l'intérêt c'est de taper un peu dans les éléments où ils sont faibles pour faire plus de dégâts.
Et il n'y a pas que ça, parce que chaque carte a aussi une valeur qui est indiquée en haut à droite, qui va de 1 à 9.
Alors au début du jeu, il n'y en a qu'une seule. Plus tu avances dans le jeu, et plus une carte aura de valeurs différentes. Donc à la fin du jeu, tu te retrouves avec des cartes qui peuvent avoir jusqu'à 4 valeurs différentes.
Et pourquoi ça a une importance, ces valeurs, Antix ?
Ça m'a rendu fou quand je l'ai découvert. Vas-y.
Et bien, c'est sûr, bien sûr, Mortal, je vais vous expliquer. C'est extrêmement simple. Baten Ketos, c'est un jeu de cartes. Il reprend aussi un petit peu les principes des jeux de cartes classiques, tels que la bataille, la belote, le blackjack ou le poker. Surtout le poker. Surtout le poker. En fait, l'intérêt de ces chiffres, c'est que, par exemple, si vous décidez de faire une paire de cartes qui ont tous les deux un 1 dessus, vous allez avoir des dégâts supplémentaires qui vont être infligés. Un petit bonus parce que vous avez fait une paire.
C'est 10% la paire, et je crois que c'est 25% le brelan.
Bon, alors, sachant qu'au début du jeu, c'est vraiment des petits... Alors, on peut aussi faire des suites. Alors, je sais plus à partir de combien de cartes.
Je crois que c'est 3 cartes minimum pour les suites. Voilà. Alors, elles sont pas obligatoirement dans l'ordre, dans mon souvenir. C'est-à-dire que si tu fais 5, 4, 6, c'est bon. C'est-à-dire que tant que ça fait une suite au total, t'es pas obligé de les mettre dans l'ordre.
Faut vraiment que ce soit dans l'ordre. Mais
faut les jouer dans l'ordre.
Tu peux faire 6, 4, 5, ou 4, 5, 6. Voilà.
D'accord, ça je savais pas. Je pensais qu'on pouvait les jouer n'importe comment.
Et donc au début du jeu, t'es limité à quelques cartes. Le truc, c'est qu'à la fin du jeu, tu pourras mettre jusqu'à 9 cartes d'affilée. Et le bonus, quand tu arrives à faire une suite de 1 à 9, il est monstrueux.
Violence.
ça fait très très mal même au boss final.
Gros chiffre.
Et en fait, surtout ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes qui vont être choisies durant, durant la phase d'attaque vont s'additionner en termes de dégâts. En fait, on va voir notre personnage infliger des attaques une par une, et les dégâts vont se faire à la fin de l'enchaînement. Sachant qu'à chaque fois qu'on joue, à partir du moment où on joue la première carte, on a un temps limité pour jouer les suivantes. Il faut prendre un petit peu de temps pour observer ce qu'on veut faire avant de se lancer, et vraiment les faire dans le bon ordre. Et la dernière petite subtilité en fait de ce système, c'est que si on, par exemple dans l'enchaînement de cartes, on va jouer des cartes d'éléments opposés, par exemple une carte de feu, une carte de glace, et ben en fait au sein même de l'enchaînement, ces deux éléments vont se neutraliser en termes de dégâts.
Ah, j'avais pas tilté. Enfin, je suis peut-être pas assez loin.
Oui, tu niques tes bonus avec ça.
Donc c'est important de faire attention à la composition de son deck et éviter d'avoir trop de cartes qui peuvent s'annuler, sachant qu'il y a des personnages en fait qui n'ont que deux éléments qui s'opposent dans leur deck, donc ils sont spécialisés là-dedans. C'est des personnages qu'on obtient un peu plus tard dans le jeu, qui du coup vont vraiment être spécialisés dans ces éléments, mais qui du coup peuvent s'auto-neutraliser eux-mêmes si on fait les mauvais enchaînements.
Et puis si t'as pas de bol aussi, parce qu'il y a quand même une question de... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que t'as aussi une question de hasard, parce que ton deck il est mélangé régulièrement, et du coup tu pioches pas toujours les mêmes choses dans le bon ordre, donc tu peux pas juste mettre des trucs dans ton deck en te disant ah, si je mets un 4, un 5, un 6, ça va bien se passer. Non, bah ils arriveront un peu au hasard, donc en fait il faut en avoir plusieurs. Donc tu reviens exactement à des jeux de construction de deck comme Dominion ou comme Magic the Gathering, alors peut-être en beaucoup moins complexe, parce que alors, Magic en l'occurrence t'as vraiment des constructions de deck très complexes, mais
c'est
voilà.
Beaucoup plus simplifié, puisque le Battle in Kethos, au niveau du deck, il faut faire attention d'avoir des cartes d'attaque pour pouvoir faire des dégâts.
Attaque.
Et bien aussi des cartes de défense, puisque lorsque votre personnage se fait attaquer, il a la possibilité de se défendre.
Et d'ailleurs, il faut être sacrément réactif, parce que putain, les attaques, ça défile. Enfin, faut... La première fois, moi, ça m'avait surpris, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis dit, bon, j'ai eu le temps de faire un tirage, tu sais, pour l'attaque tranquille, en disant, bon, je mets cette carte, allez, on y va, pénard. Et en fait, quand tu te défends, faut vraiment speeder. Faut speeder d'aller choisir les cartes, donc faut vraiment réfléchir vite. Parce que t'as les mêmes genres de bonus qui s'appliquent pour les cartes défensives.
Et sachant que, bah, pour le coup, au niveau des cartes défensives, évidemment, au bout d'un moment, les ennemis dans le jeu ont des éléments attribués à leurs attaques, et il va falloir se défendre avec éléments opposés. Donc, pour défendre une attaque contre l'attaque de glace, il faudra des équipements de feu. Donc, c'est des petites subtilités. Alors, ça a l'air super compliqué comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une option dans le jeu pour activer, en fait, le détail des dégâts infligés par chacune des attaques par le personnage et par l'ennemi. Et mine de rien, quand on découvre les boss et les ennemis pour la première fois, c'est assez intéressant à voir, parce que ça permet, si jamais on se fait rétamer la gueule. Et le jeu, certains boss sont quand même assez balèzes, et le jeu a la gentillesse, quand on perd contre un boss, de pas nous ramener au point de sauvegarde, nous faire recommencer juste avant le combat, il nous ouvre un menu et nous propose de refaire notre deck.
Tout à fait, mais en fait c'est n'importe quel ennemi, hein, c'est pas seulement les boss.
Ah, je croyais que c'était que les boss. Hein.
Ah non, c'est pas que les boss.
Pour moi, c'est les ennemis de base sur 3
je suis mort comme une grosse
il
crotte.
Il est mauvais.
Je suis mort comme une grosse crotte devant une araignée de merde.
je me demande si l'araignée c'est pas un boss de mémoire.
Non, c'est pas un boss, non, mais il y en a d'autres où c'est pas des boss, hein, c'est certain. C'est simplement, j'avais pas du tout fait gaffe. Parce que j'avais, comment dire, j'ai été faire le. Alors voilà, bon. Alors. Voilà,
t'as accéléré bon. Tous les dialogues.
Alors non, j'ai fait le malin. Hein, et je me suis dit, ouais, rien à foutre, je traverse la forêt à machin truc, moi, tu vas voir, je vais tous les niquer. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ce qui est bien, c'est que j'ai récupéré plein de niveaux, quand même, mine de rien. Donc j'étais content.
Ah oui, d'ailleurs, on peut parler de la façon de monter de niveau, parce que ça aussi, c'est particulier.
Ah putain, c'est chiant, d'ailleurs. Oh non, ça m'a cassé les couilles.
Donc dans un RPG classique, c'est pas très dur. On fait des combats, on gagne de l'expérience, et quand on arrive à un certain moment, on monte de niveau. Dans Battle of Kethos, on fait des combats, on gagne de l'expérience, et puis...
Faut aller la dépenser.
Faut aller la dépenser à l'église.
C'est très chiant.
Ouais, alors, c'est d'ailleurs à l'origine d'un niveau qui a une très mauvaise réputation dans le jeu, qui se retrouve vers la fin du CD1, où en fait on est coincé dans une aéronef de l'Empire, donc qui sont les méchants du jeu, on viendra un petit peu sur l'histoire après, parce qu'on n'a pas encore parlé. Et en fait, c'est une aéronef où le seul point de sauvegarde est une fleur orange, et en fait ce qui est important, c'est que les points de sauvegarde... Dans les points de sauvegarde avec les fleurs oranges, donc les fleurs bleues, on peut accéder à l'église, mais pas celle avec les fleurs oranges. Donc, on se retrouve coincé dans l'aéronef avec un des boss les plus durs du jeu, sans avoir possibilité de monter de niveau. Donc ça peut être un softlock.
Donc on peut le, voilà, on peut le battre en boucle. Bref, donc moi j'ai traversé la forêt de machin truc et en fait j'ai pas pensé à me soigner bêtement. En fait c'est un truc con, mais entre deux combats j'ai pas pensé à me soigner, donc je me suis fait tuer par le monstre random et en fait ils te remettent juste devant le monstre en te proposant effectivement de changer ton deck et en te rechargeant ta vie, ce qui est quand même très sympa.
Et sinon de quality life toujours intéressante.
Voilà, et sinon tu... Mais c'est surtout que c'est quand même des options qui étaient pas fréquentes sur des RPG de l'époque. Oui, c'est un peu hardcore.
Alors maintenant, c'est beaucoup plus fréquent parce qu'on a des sauvegardes automatiques et compagnie. Alors, typiquement, Final Fantasy VII Remake te propose exactement ça, de recommencer juste avant le combat. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait que des points de sauvegarde. Ouais.
Ah, t'avais moyen de perdre une heure ou deux de jeu.
Ouais. Mais voilà, là, t'as vraiment un checkpoint avant chaque ennemi, en fait. Et il y a quand même un truc très bien, c'est que pour se soigner, il faut manger des shish kebabs. Le truc que moi je mangerais bien là maintenant, tu vois. Parce que c'est sympa le confinement, mais au bout d'un moment, si tu peux pas choper une chiasse d'enfer le samedi matin parce que t'as bouffé un kebab le vendredi, je vois pas l'intérêt.
Écoute, peut-être que demain je vais prendre un kebab au taf.
Oh putain, mec.
Peut-être, j'ai fait la semaine dernière.
Bref, donc voilà, donc on va peut-être faire un petit point histoire, parce que je pense que sur le côté système de jeu, on est à peu près...
Ouais, faut
il y a deux, trois subtilités, mais alors, je veux dire, on est à peu près sur les grandes lignes, c'est ça.
Voilà, il y a une petite subtilité dont on n'a pas parlé, c'est que chaque personnage a un finishing move qui va clore, quoi qu'il arrive, la chaîne d'attaque. C'est-à-dire que quand on joue, c'est une carte qui est vraiment spécifique à un personnage, qui est tout à fait repérable, généralement il y a un chiffre romain dessus. En plein
et elle clignote. Elle fait fouing.
Et elle clignote. Et en fait, quand on joue cette carte, on termine la chaîne quoi qu'il arrive de mémoire.
Alors ça, je suis pas certain, mais en tout cas, c'est un finish, ça c'est sûr, puisqu'il faut jouer. Enfin, il faut jouer le nombre de cartes max qu'on peut jouer juste avant, et c'est vraiment la toute dernière.
Ouais. Donc ça c'est la dernière petite subtilité. Il y a une dernière subtilité dans les combats, mais qui nécessite que j'aborde aussi un point d'univers assez important, qui est en fait pour aborder un peu le scénario du jeu avant. Qui est, alors, dans un premier temps, une quête finalement assez classique de héros de jeux vidéo, c'est-à-dire que notre héros Kalas se réveille après s'être fait attaquer par un monstre dans un médecin d'une petite bourgade de campagne.
Et on lui dit, heureusement que t'es pas amnésique.
Ce qui
est quand même un peu le lulz.
En fait, le twist dans cette histoire, c'est que c'est pas Kalas le héros qui est amnésique, en fait, c'est le joueur, parce que le joueur joue un ange gardien. Et en fait, c'est dans le jeu fait une vraie différence entre Kalas et l'ange gardien, ce qui fait que des fois le héros va avoir des façons de penser qui sont pas du tout de ce qu'on attend d'un héros de RPG classique. Et en tant que joueur, on pourra décider de pas être d'accord avec lui.
De toute façon, il fait qu'est-ce qu'on dit, hein.
Jusqu'à certains points.
C'est important. Oui, non, mais voilà.
Jusqu'à certains points. Mais oui, fais ce qu'on dit. Cette séparation est quand même à l'origine d'un des meilleurs twists du jeu, donc je recommande d'aller un petit peu plus loin.
Pas de spoiler, mais voilà.
Pas de spoil, mais voilà. Il joue très bien sur cette idée que voilà, le joueur est un personnage qui n'est pas le héros. Donc tout au long du jeu. Et je trouve que c'était très réussi. Pour revenir un petit peu au scénario, donc notre ami Kalas en fait se réveille dans cette petite bourgade de campagne de la Mantikid de Sadal Sud, et donc après s'être réveillé, décide de partir dans la forêt juste à côté parce qu'il a de mémoire il a appris qu'il y a des gens qui s'y étaient rendus, et il va rencontrer l'héroïne du jeu qui s'appelle Sheila, une petite blonde magicienne comme toutes les héroïnes de JRPG. Qui va l'accompagner en fait dans cette forêt, et au bout d'un moment ils vont tomber sur une espèce de gardien d'une source.
Enfin, c'est le premier boss quoi.
C'est le premier boss du jeu, le deuxième boss du jeu, mais voilà un peu, l'idée est un petit peu là. Et en fait ce gardien va garder ce qui s'appelle dans l'univers du jeu une haine Magnus. Et en fait qu'est-ce que c'est la haine Magnus? En fait c'est, je sais pas si on l'apprend dès le début du jeu ou si on l'apprend plus tard, mais c'est des artefacts avec des pouvoirs assez forts qui sont en fait liés à Malpertio. Et l'ancien dieu des temps anciens qui est responsable de l'empoisonnement de la Terre.
Qui a avalé tout l'océan.
Et donc, comme dans un RPG japonais, il existe une faction dans le monde de Baten Ketos, une faction d'humains, qui est l'Empire, évidemment. Un empire avancé technologiquement, avec des vaisseaux en métal doré.
Dirigé par Palpatine et... attendez.
Gueule de Blame, il s'appelle, mais globalement,
c'est,
ouais,
c'est pareil.
C'est
pareil.
Inspiré de Palpatine.
Les méchants. Les méchants.
Et notre héros Kallas, donc en fait, se retrouve embarqué dans cette histoire, mais un petit peu aussi par vendetta personnelle, puisqu'il est à la recherche de Giacomo, qui est le bras droit de l'empereur.
Oh, c'est Giacomo.
Giacomo. C'est
Giacomo. Qui est méchant parce qu'il a un accent italien.
Exactement. Et parce qu'il a tué le papa de Kallas.
Et parce qu'il a les cheveux longs.
Aussi. Moi, je vais rien dire, moi je sors de confinement, je suis obligé de m'être fait toucher les cheveux en ce moment. Je suis peut-être le méchant de ce Jobard.
Il est roux, il est gaucher, et en plus il a les cheveux longs.
Je vous ai eu, attends, je vais vous spoiler tous les twists.
J'ai fait exprès de dire que j'étais mort.
Et du coup, donc, avec Kallas et Shea, vont s'embarquer dans une aventure sur les 5 îles du jeu pour essayer de rassembler les 5 aides Magnus avant l'Empereur. Alors évidemment, ça c'est la première partie du jeu, il y a un twist au milieu. Que je vous laisserai découvrir.
Voilà, on passe au CD2.
On passe au CD2, et là, vous découvrirez en jouant au jeu. Hein.
Oui, voilà, on va pas révéler le reste.
Et le twist change pas mal de choses, et est vraiment super intéressant, et encore une fois, comme j'ai dit, il joue sur le fait que le joueur est un personnage à part.
D'accord.
Et effectivement, a une amnésie.
Non, c'est...
Voilà, c'est l'ange gardien du joueur qui est une amnésie. Personne principale qui est une amnésie, moi je trouve ça très drôle.
Mais attends, en fait, un héros qui se réveille amnésique dans un village où les animaux ont commencé à devenir fous et attaquer les gens, oh là là, c'est compliqué.
Voilà, c'est un petit tour du monde, et puis après, il y a le reste du scénario
qui est passer des trucs.
C'est plutôt cool.
C'est vraiment au CD2 ou...
C'est tout début du CD2 de mémoire.
Oh putain, ils sont sérieux les mecs. Donc il te mène en bateau pendant un CD complet quand même, avant de t'amener à autre chose.
Moi je peux te dire que le twist à l'époque, je l'ai pas aimé du tout. Hein, ouais,
tu l'as peut-être pas vu venir non plus.
Non, moi je l'ai pas vu venir. C'était vraiment, non, honnêtement, vraiment bien caché, et quand j'ai compris toutes les implications de ce twist, je fais oh, c'est du génie.
Voilà, moi j'ai vraiment pas été suffisamment loin. J'ai fini la deuxième île en fait, donc effectivement ouais. Ça fait.
Le twist est sur la cinquième donc.
Donc effectivement il y a le temps, mais du coup tu m'as donné envie d'y jouer juste pour voir le twist, parce que je suis très curieux, parce que je le vois vraiment pas non plus, tu vois, je le vois pas du tout venir, mais alors du tout.
Bon voilà, et je sais que c'est un jeu qui était assez prenant, alors comme dit Mortal au début, c'est un jeu qui prend son temps, et honnêtement ça reste le cas pendant tout le jeu.
En termes de scénario, hein, parce qu'en termes de...
Alors justement, moi j'allais dire aussi en termes de combat, parce que t'as des boss qui durent une bonne demi-heure à un moment.
Ouais, alors les boss durent, mais je trouve que le système de combat est suffisamment dynamique, intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il te force à réfléchir, mais aussi à réagir vite, et du coup ça ressemble un petit peu, ça m'a vraiment fait penser à un puzzle game ou un truc comme ça, c'est-à-dire un truc dans lequel tu t'es obligé de réfléchir mais relativement vite, un peu comme dans un Tetris où tu peux pas te permettre de lambiner pour réfléchir où tu vas mettre ta pièce, mais faut quand même que tu réfléchis, mecton.
Désolé, c'est les voisins.
Bon bref, il faut quand même que tu réfléchisses où tu vas mettre ta pièce, mais il faut que tu le fasses vite, et je trouve que même si les combats sont parfois longs, c'est-à-dire de temps en temps effectivement tu sens le combat qui traîne un peu en longueur. Je pense à l'araignée, mais le premier boss aussi, tu sens que c'est quand même un peu laborieux, parce que c'est quand même du tour par tour, même si c'est des trucs avec des cartes, même si tu réagis pendant le tour de l'adversaire, enfin, c'est long, mais c'est pas désagréable du tout, et tu le sens pas forcément passer le combat. Tu t'es vraiment pris dans le truc à te dire, bon ok, donc là maintenant je vais mettre telle carte, ça va faire une paire, et ensuite je vais déclencher ça, et au tour suivant je vais essayer d'attaquer ça, tiens là j'ai récupéré ça, faut que je soigne machin. Enfin, t'es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu vas faire dans l'immédiat et au prochain tour, et je trouve que du coup c'est intéressant. T'as un gameplay minute to minute qui est relativement prenant, et t'as même un gameplay seconde to seconde, puisque la réaction en défense, t'es vraiment obligé d'aller très vite.
Même quand tu dois enchaîner les cartes, t'as pas beaucoup de temps entre chaque carte, donc faut vraiment y aller un peu.
Donc je trouve qu'il y a ce côté intéressant du contrairement à un active time battle où effectivement, enfin voilà, tu fais tes mouvements puis tu attends puis c'est assez mou du cul quoi entre guillemets. Là c'est peut-être long, mais c'est pas mou. T'es vraiment obligé de t'es pris dans le flux du truc. Et je trouve que ça passe plutôt bien. Et t'es même de temps en temps à te poser la question, à te dire, t'as ton deck qui est indiqué en bas, et te dire, oh putain merde, je vais devoir mélanger ma pioche dans deux tours.
Ah oui, ça c'est le petit truc pas sympa par contre, c'est quand tu arrives à la fin de ton deck, il remélange pas automatiquement, il remélange au tour d'après.
Ouais, et ça c'est pute.
Et perdre un tour, parfois, ça peut être...
Ça peut faire très mal.
Mais comme on l'a dit, le game over n'est pas spécialement punitif.
Ah ouais, puis en plus, on te permet, en plus, effectivement, comme tu l'avais dit, on te permet aussi, en plus de l'écran, voulez-vous continuer? Voilà, t'as juste un checkpoint, quoi. On te propose, on te remet dans le menu pour te proposer d'aller changer ton deck. C'est-à-dire te dire, bon, ok, t'avais pas prévu que le boss, il faisait que du feu et t'avais que du feu, donc ça marche moyen, bah vas-y, tu peux te faire un deck spécial pour être certain de le passer sans être emmerdé. C'est quand même plutôt nice, quoi. Bref, donc on va s'écouter un deuxième petit morceau qui n'est pas encore parti. Non, qui n'est pas encore parti. Très bien. On va s'écouter un deuxième petit morceau de la bande originale de Baton premier, qui est The True Mirror, qui est en fait donc la musique standard des batailles. Et donc moi je pensais vraiment que c'était du troll. Parce que oui, tu dois l'entendre au moins 20 heures sur les 60 heures de jeu. Hein. Facile.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est un thème qui est excellent. Qui est vraiment épique et tout ce qui va bien, qui commence bien, qui démarre bien, enfin voilà, ça te, ouais, ça te
fait. J'avoue que la première fois, le violon, ça m'a surpris. Hein.
C'est vrai.
Après, on s'y fait, et on trouve même que c'est bien.
Mais c'est vachement bien, hein. Enfin, moi je suis assez fan de ça, c'est-à-dire que même si. Ce que je trouve, le seul truc un peu relou, je trouve, c'est que finalement, ça démarre toujours sur le même mouvement quand tu démarres un combat. Donc quand tu parcours une carte, t'as toujours le voilà, et puis ça enchaîne comme ça. Et c'est dommage parce que le morceau est plus long et plus intéressant que ça, et finalement, comme on te le démarre toujours au même mouvement, tu t'entends vraiment toujours les 30 mêmes secondes quasiment à chaque fois. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc on va s'écouter ça, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc, maintenant que nous avons apporté Baton Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu, Antix nous avait promis de prononcer Baton Kaitos Origins en japonais.
Il a commencé.
Baton Kaitos Tsu Hajimari no Tsubasa to Kamigami no Shishi.
Oh putain.
Alors, qui se traduit littéralement en français, Baton Kaitos 2, les ailes du commencement et l'héritier des dieux.
Putain.
Et je pense que Nintendo America en avait marre, et ils ont décidé de l'appeler Baton Kaitos Origins.
Alors en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je travaillais pour Nintendo of America à cette époque-là, et que je leur ai dit, non les gars, les titres à rallonge, c'est complètement has-been, c'est pas du tout ça qu'il faut faire.
Donc du coup, comme son nom l'indique, alors c'est sous-entendu dans la version japonaise, et c'est beaucoup plus littéral dans la version américaine, c'est une préquelle.
Voilà. Merci, Captain Evident. Mais oui, il fallait le dire. Donc c'est un jeu qui n'est... Alors il est sorti au Japon, il est sorti aux États-Unis, il n'est jamais sorti en Europe.
Annoncé au TGS 2005, sorti en février 2006 au Japon, et 6 mois plus tard aux États-Unis. Et donc 3 mois avant la sortie de la Wii.
Et donc effectivement, jamais sorti en Europe. Du coup, il n'a jamais été traduit, du coup, d'où l'émission qui en fait vient du fait que Zergy a récupéré un patch français qui a été terminé il y a relativement peu d'ailleurs, me semble-t-il.
Il y a un mois.
Voilà. Et qui nous a gentiment mis à disposition les ROM de Baton Kaitos Origins déjà patchés, pour qu'on puisse tester. Alors moi, j'ai pas testé Baton Kaitos Origins parce que je me suis dit, bon, je fais le premier d'abord, je ferai le deuxième après. Faudrait que je me l'achète d'ailleurs sur GameCube en import, ça peut quand même être...
Je crois qu'il cote assez cher maintenant.
Ouais, je pense qu'il cote assez cher parce que c'est un jeu de fin de vie de GameCube.
Il est à 60 balles.
Sérieux ?
En import ?
En import, entre 60 et 75 balles en fonction de l'état.
La version japonaise peut-être ?
US.
Non,
non, US.
Ah.
Ouais, il est pas si cher que ça. Hein.
Là, je m'attendais à plus cher vu que c'est vraiment un fin de jeu de GameCube qui n'est jamais sorti chez nous.
Non, il y a beaucoup plus cher que ça. Enfin, sur GameCube, en fait, les jeux qui sont excessivement chers et délirament chers sont plutôt européens, en l'occurrence. Les jeux américains sont plutôt très accessibles.
D'accord. Ça m'étonne.
Voilà. Tu veux un jeu très cher sur GameCube ? Je te donne un exemple de jeu très cher sur GameCube. Extreme G Racing Association. Donc il y a une version anglaise qui coûte 30 balles sous blister, c'est-à-dire quasiment rien. La version française, donc packaging français, hein, le jeu c'est le jeu européen quoi qu'il arrive.
Et Extreme G, c'est sur une 64.
Non, il y a deux jeux sur GameCube, monsieur.
Je me souviens qu'il était Sky of Arcadia, il coûtait pas mal, hein, une époque.
Alors, Sky of Arcadia, t'es dans les 100 balles. Extreme G Racing Association, donc la version française, hein, attention, c'est très spécifique. La dernière fois que je l'ai vu passer sur eBay, j'ai enchéri dessus pour rigoler, mais jusqu'à un certain point, il est parti à quelque chose comme 475€, je crois.
What?
Voilà. Parce qu'en fait, les collectionneurs GameCube, ce que recherchent beaucoup les collectionneurs GameCube, notamment en Europe, ce sont les versions qui sont spécifiques à leur pays. Et donc la version la plus commune en Europe, c'est les versions UKV, donc United Kingdom, et en fait les versions anglaises, packaging anglais, qui sont vendues un peu partout en Europe, donc en Grèce, en Espagne, au Portugal. Quand le jeu n'est pas localisé, en général, il est vendu comme ça. Et après, tu as les versions plus spécifiques, donc les versions NOE, qui sont les versions allemandes, il y a les versions suisses, il y a les versions Benelux, les fameuses versions FAH, qu'on a nous en France, il y a les versions FRA, donc les versions spécifiques françaises. Et il se trouve qu'Extreme G Racing Association a été tiré à très peu d'exemplaires en FRA, mais il a été tiré. Mon estimation personnelle, c'est moins de 5000, et du coup, il est rarissime, et à chaque fois que j'étais prêt à le choper, donc une fois, j'ai vu une annonce sur le bon coin, un mec qui le vendait genre 50 balles, je dis « vas-y, je te le prends », je discute pas, je te le prends, et le mec me dit « bah je suis désolé, il y a quelqu'un qui vient de m'en offrir 300, donc je vais lui vendre à lui ». Et à chaque fois que j'ai essayé de choper ce jeu en version française, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, tu veux des jeux chers sur GameCube, c'est beaucoup plus en Europe et sur des packaging spécifiques à certains pays ou régions que tu vas en avoir. Aux États-Unis, finalement, c'est raisonnable. Il y a des jeux chers, hein, mais c'est raisonnable. Donc Baton Kaitos Origin, pas si cher que ça aux États-Unis.
Bah 60€, c'est le prix à sa sortie, donc...
Voilà, donc là, en fonction de l'état, hein, c'est-à-dire que si tu veux complet mode d'emploi, tout ça, t'es plus vers 75, mais ça reste quand même très raisonnable pour de la GameCube. Surtout en ce moment. Ouais. Bref, donc cette petite parenthèse étant fermée.
Alors,
donc,
du coup, Baton Kaitos voilà. Origin, ce qui est intéressant à savoir, donc déjà, c'est que, à l'instar de Bayonetta 2, c'est pas un jeu qui est édité par Namco, c'est un jeu qui est édité par Nintendo. Ceux qui ont fini le jeu, qui regarderont les crédits sur YouTube, on verra qu'à la fin, l'exécutif producteur, c'est Iwata.
Ce
qui fait que c'est le jeu a été a priori financé par Nintendo. C'est toujours les mêmes développeurs, donc Tri Crescendo et Monolith qui s'occupent du développement, avec à peu près la même répartition que sur Baton Kaitos, donc technique et musique pour Tri Crescendo et toute la vision artistique pour Monolith. Toujours René qui est concepteur, il va y avoir Kokojima qui va l'aider pour le scénario. Et alors pourquoi je parle de lui? Parce qu'en fait c'est le réalisateur de Xenoblade. C'est un petit mec qui monte chez Monolith à l'époque. Et c'est pas anodin qu'il commence à être plutôt. Enfin, qu'il commence à bien monter parce que c'est du très bon boulot sur Baton Kaitos Origin. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une préquelle. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que en fait, c'était un peu compliqué de reprendre des assets après la fin du premier Baton Kaitos. Donc autant le faire avant. C'est plus rapide, on gagne du temps, on économise de l'argent. Parce qu'on va aller revisiter à peu près les mêmes endroits, avec quelques petites nouveautés, quelques petites subtilités, mais globalement c'est le même univers, 20 ans en avant.
C'est un peu moche quand même, c'est les mêmes assets du coup ou...
Bah c'est une Majora's Mask.
Ah putain, c'est moche quand même, non?
Alors, c'est moche.
Je savais pas moi en plus.
Ça a été adapté pour rappeler que l'histoire se déroule une vingtaine d'années avant. Il y a des nouveautés évidemment dans les assets, puisqu'il y a des nouveaux lieux à visiter. Notamment une nouvelle île et une espèce de monde parallèle dans lequel les héros vont visiter de temps en temps selon les besoins du scénario. Mais globalement, oui, on est sur une Majora où, bah, pour gagner du temps et de l'argent, on reprend des assets de l'épisode d'avant. Bon, après, les décors en précalculé, ça vieillit pas des masses, hein, donc ça tenait encore à peu près la route de ce côté-là. Bon, par contre, après, les personnages, le scénario, on a énormément de choses inédites dedans. Parce que cette fois-ci, c'est plus Kalas le héros, c'est Sagi, qui est en fait le membre d'une espèce de groupe un peu secret qui s'appelle le Dark Service, et qui, dans sa première mission, donc, qui correspond à peu près à la première heure de jeu, est envoyé avec ses camarades buter l'empereur de l'empire d'Alphard, donc qui est le même empire que dans le premier Baton Kaitos. Sauf que quand ils arrivent sur place, l'empereur a déjà été assassiné par quelqu'un d'autre, qui deviendra un personnage récurrent dans le jeu. Et Sagi se fait accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et donc doit s'enfuir avec Gilo, qui est une espèce de mystérieuse poupée mécanique qui l'accompagne et qui surtout a la particularité de parler avec une voix d'homme et une voix de femme en même temps.
De what?
Il y a une voix d'homme et une voix de femme en même temps. C'est expliqué.
C'est curieux. Ah oui, non, c'est expliqué plus tard, je suppose.
C'est expliqué plus tard.
C'est parce qu'ils avaient un doubleur, ils savaient pas quoi lui donner à faire, alors voilà.
C'est la bonne explication, ce méta.
Voilà, c'est très bon ça.
Et durant cette fuite, ils vont se faire attaquer par une espèce de créature géante qui s'appelle, qui sera, alors je sais plus s'il le nomme à ce moment-là, mais en gros ça s'appelle un Afterling. Dans la version anglaise, je ne sais pas si ça a été traduit dans la version française. Mais en gros, c'est apparemment lié à Malpertio, donc le dieu. Le méchant dieu de l'univers
le
de
Magic méchant,
Kratos.
Oui. Le méchant.
Et en fait, et suite à cette rencontre, donc Guilo va passer une espèce de mode berserk et buter la créature. Et surtout, Sagi va faire une espèce de... va tomber dans les pommes. Et on va se retrouver dans une espèce de monde parallèle avec des gens qui ont l'air de connaître Sagi, mais Sagi ne les connaît pas du tout.
Chouette, une amnésique.
Bah non, justement, lui il n'est pas amnésique.
Et non
lui il n'est pas amnésique. Donc il va se passer quelques aventures dans ce monde parallèle, ils vont revenir dans le monde réel, Sagi va s'enfuir, et dans sa fuite ils vont rencontrer le troisième personnage et dernier personnage de l'équipe, qui est Milliard. Une espèce de fille de bourge un peu chippie, voire même complètement. Et donc suite à tous ces événements, donc Sagi va s'enfuir, va retourner chez lui, mais sera contacté par la suite par Verus, qui est le responsable de la responsable militaire de l'Empire, qui va l'engager en fait pour être son messager auprès des différentes autres nations de Baten Ketos, qu'on a vu dans le premier, pour prévenir en fait des machinations de Belheit, qui est aussi un haut dignitaire de l'Empire, et qui est la personne en fait qui s'est arrangée pour que Sagi soit accusé du meurtre. Donc c'est à partir de cette base du scénario que on va suivre un peu une intrigue qui est plutôt politique par rapport au premier Baten Ketos, que je trouve beaucoup plus réussi. On trouvera notamment, on va rencontrer des personnages du premier épisode plus jeunes, notamment Goldblime avant qu'il soit empereur.
Ouh, donc Palpatine quand il était sénateur.
C'est ça, mais comme Palpatine, il est vachement plus sympa. Et donc on va suivre un petit peu l'évolution de tout ça, parce que Baten Ketos Origins va narrer en fait tous les événements qui vont mener à l'arrivée de Goldblime au pouvoir, et qui vont un petit peu rendre le monde tel qu'il est dans le premier Baten Ketos. Ça c'est pour un gros résumé. Et évidemment il y a tout ce scénario dans cette espèce de monde parallèle qui lui aussi a son importance dans l'histoire du jeu. Et comme dans le premier, on a encore une histoire d'ange gardien. C'est important. C'est une marque de fabrique de la série, et comme sans surprise, hein, ça va encore être utile dans le scénario.
Et ça va être encore le plot twist. D'un point de vue, en off, hein, tu me disais qu'il y avait une évolution, parce que moi j'ai c'était un peu là, c'est un peu les mêmes et on recommence, enfin c'est l'impression que ça donne vu de loin, mais du coup il y a quand même des subtilités un peu en plus.
Alors il y a des petites subtilités, alors on reprend quand même globalement les déplacements
à but. C'est toujours des cartes, c'est toujours des combats pas aléatoires, mais presque.
Avec des monstres visibles, il y a toujours le système de Magnus avec les Magnus qui évoluent, notamment principalement pour les quêtes dans celui-là. La grosse différence, en fait, elle tient en deux choses. La première, c'est qu'on a un dash disponible dans les déplacements. La seconde, c'est le système de combat qui a été revu, parce que maintenant, on n'a plus que trois personnages. Amené à toujours les utiliser en combat, et en fait, au niveau
mais
de...
Avant, on en avait 3 utilisables sur 6 au total.
C'est ça.
Voilà.
Et en fait, les 6 avaient leur spécificité, leur carte et leur deck spécifique. Et là, dans Baten Ketos Origins, ils vont simplifier tout le système de cartes, de deck. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un deck commun pour tous les personnages.
Ouh.
Ces personnages auront parfois des cartes spécifiques. Et surtout, ils vont énormément fluidifier le système de combat. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus sur un système d'attaque-défense comme dans le premier, on va être sur un truc beaucoup plus proche de la TP de Final Fantasy, où en fonction de l'initiative des personnages, ils vont pouvoir agir.
Et jouer des cartes.
Sachant que maintenant, toutes les cartes d'attaque sont communes aux personnages, ils ont juste gardé leur technique spéciale de spécifique. Et après, évidemment, il y a des objets de soins, des équipements à mettre. Et ils vont aussi simplifier le système de combo de cartes, c'est qu'à partir de maintenant, il n'y a plus que des suites. Avec le numéro 0, c'est un équipement qu'on peut mettre en début de chaîne. Les 1, 2, 3, c'est des attaques de plus en plus fortes. Et 4, 5, 6, ça va être les attaques spéciales. Alors, on peut se dire, ça a quand même vachement simplifié. Et en fait, c'est là où le jeu va dévoiler beaucoup de ses subtilités. C'est-à-dire qu'en fait, Donc à la fin d'un premier enchaînement d'un personnage, si on finit sur un coup spécial, il est possible de jouer une carte avec un R dessus qui est une carte de relais. Et en fait, directement après, on va pouvoir enchaîner un second personnage va pouvoir enchaîner sur une série d'attaques. On peut faire ça avec les trois. Et donc enchaîner attaque normale, attaque spéciale, ce qui fait que ça va gagner des avantages. En plus, le fait de faire des chaînes de cartes spécifiques va pouvoir créer ce qu'ils appellent des EX combos qui vont permettre en fait de faire donner des bonus type gagner de la vie, renforcer l'attaque. Et la dernière petite subtilité, c'est que maintenant il y a une espèce une jauge de MP qui en fait va gérer l'utilisation de certains objets et les attaques spéciales. Et le fait de faire des enchaînements, des suites de cartes augmente cette jauge de plus en plus vite. Et passé un certain temps du jeu, quand on la remplit à fond, on peut déployer ce qui s'appelle un MP Burst. Là, les MP sont infinis jusqu'à ce qu'on finisse notre chaîne. Et si on arrive à faire un relais combo durant cette chaîne de MP Burst, normalement, on a ratissé des gros chiffres, beaucoup de morts. Et ça peut durer, et les combats du coup vont aller beaucoup plus vite. Ça dure à peu près. Les combats contre les ennemis durent 30 secondes, les boss durent 5 minutes.
C'est marrant parce que ça me rappelle beaucoup le système de.
De Xeno.
Ouais.
Avec des jauges qui s'enchaînent.
Avec des machins qui s'enchaînent et qu'en fait, au bout d'un moment, t'as un truc tellement de bâtard que tu peux déclencher un gros burst.
Un apocalypse en 2 attaques.
Et tu défonces le boss en 2 minutes. Quoi.
C'est ça. Et honnêtement, d'ailleurs, dans le jeu, il y a des enchaînements de cartes qui sont vraiment totalement pétés. Et où tu peux littéralement rouler sur le boss final avec. Ce qui est assez jouissif, parce que en vrai, quand ça arrive, t'as joué toutes tes cartes, tu poses la manette, tu regardes juste tout le monde se faire détruire.
Et tu gueules Rami.
Olin.
Voilà, Kems. C'est bon, nickel.
Vous pouvez taper un petit peu sur YouTube, il y a des gens qui ont fait des espèces de compilations, des gros enchaînements de Battle of Ketos Origins. C'est carrément beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rapide que le premier. En plus, ils ont fait le petit truc sympa, c'est-à-dire que quand tu finis un combat, tes jauges de vie sont remplies au max. Donc tu peux décider littéralement de jouer sans objet de soin, c'est une stratégie qui est valable.
Ah, tu peux ratisser le jeu comme ça. Putain, ça a l'air vachement sympa quand tu le décris comme ça par rapport au premier, je veux dire, qui est très bien, mais qui a un style très différent finalement, dans le système de
combat. Alors après, là, je parle du système de combat tel qu'il est arrivé à la moitié du jeu. Hein. Au début du jeu, on est beaucoup plus limité puisqu'il débloque en fait ces différents aspects au fur et à mesure, en fonction des cartes que tu obtiens.
Mais comme un Xeno 2, comme un Xeno X, où effectivement, c'est aussi la caractéristique de ce RPG-là.
On te met tout ça à dispo dès le début, tu comprends que dalle.
Quand tu étais petit, ta maman, quand elle devait te mettre un suppositoire, elle te le présentait pas comme un obus de 22.
Voilà. Si
c'est le même principe.
Si vous vous souvenez à peu près de la richesse du système de combat de Xeno 2, je trouve que Battle of Ketos Origin, on est probablement dans les autres jeux de Monolith qui s'en rapprochent le plus. Et pour moi, ça contribue en fait à ce que ce jeu en fait soit vraiment plus réussi que le premier. En plus du scénario que je trouvais mieux rythmé. Et aussi un peu plus léger, notamment avec le personnage de Guilo qui a une tendance aussi à faire des remarques un petit peu anthropophages à base de « est-ce que je peux bouffer des enfants ?»
J'adore.
Je suis pas sûr, mais voilà.
Voilà, il y a celui-là aussi, il faut aller regarder les screenshots de ce personnage, c'est très drôle. Donc là, on a un jeu qui à mon avis a synthétisé en fait les qualités du premier, et qui a décidé en fait de vraiment pousser plus loin les petits reproches qu'on pouvait faire au premier, notamment dans son système de combat. Et là, on a un truc qui est vraiment pêcheux, qui est super, un jeu qui est vraiment rythmé, un scénario qui est dense, et qui, je trouve, se tient un peu plus du début à la fin. Centré sur de la politique, des relations entre des personnages, moi je trouve que ça marchait mieux que tout le premier, même si le premier est très sympa. De ce côté-là...
C'est qui le scénar?
Kokojima, donc j'ai dit au début, c'est le réalisateur de Xenoblade.
Ouais, il aime bien lui tout ce qui est intrigue politique et tous les enjeux qui vont avec.
Donc y a,
ça c'est bon ça.
Ouais. Ça marche très très bien dans Battle of Ketos Origin et moi pour le coup c'est un jeu que je préfère au premier, que je relance beaucoup plus volontiers juste pour profiter vraiment des combats qui sont pour moi une des merveilles du genre de ce côté-là. Et en plus, on garde toutes les qualités du premier, donc l'ADA, la partie sonore aussi, qui est toujours aux petits oignons, le doublage est vraiment soigné dans celui-là. Dans la version anglaise, c'est vraiment drôle, pour le coup. Et vraiment, les personnages sont bien joués et compagnie. Donc c'est un jeu qui est très peu connu, mais ça fait partie, on parlait des petites pépites d'import avec Seiken il y a 2 semaines. Et Battle of Ketos Origin, c'est un peu la petite pépite d'import de la GameCube.
Voilà, sachant qu'il est disponible évidemment en version japonaise, mais comme je le disais tout à l'heure, en version anglaise, enfin en version américaine, il n'est pas si cher que ça. Vous avez payé beaucoup plus cher de frais de port que de jeu lui-même.
Bon, après, faut une GameCube modée ou un freeloader pour y jouer. Hein.
Voilà, après il faut un petit peu de matos. Ou Dolphin, si vous voulez y jouer avec les ISO d'origine. Après
il paraît que ça tourne plutôt bien sur Dolphin.
Je confirme que le premier tourne plutôt bien sur Dolphin, en tout cas. Ça marche pas mal.
Enfin, voilà. Si vous avez une cinquantaine d'heures, je vous le reconseille très 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 fortement.
Et du coup, avant de se quitter, est-ce qu'on conseille le 1 puis le 2? Est-ce qu'on conseille plutôt juste le 2? Alors éventuellement, alors effectivement, comme ça, voilà, en émulateur, parce que ça coûte quand même un petit peu cher ou qu'il faut avoir un peu de matos. Je vous rappelle que modder une GameCube ou une Wii pour pouvoir jouer directement les ISO, pour pouvoir jouer les disques d'origine américains, c'est pas très compliqué. Il y a un guide sur le dojo qui est disponible pour ça. Permet de lancer à peu près n'importe quoi sur une GameCube. Zergy, on est extrêmement satisfait de ce
sachant qu'en plus, si vous jouez sur Dolphin, on rappelle que, comme le dit Zergy, il y a un patch français.
Et en plus, oui, alors par contre, effectivement, si vous y jouez sur console, il faudra obligatoirement y jouer soit en japonais, ou je pense que ça doit être quand même pas évident du tout. Profiter du scénar, c'est compliqué, quoi.
Alors, profiter du scénar, c'est compliqué, profiter du système de jeu aussi, c'est compliqué.
Alors quoi, effectivement, pourquoi en anglais, y jouer forcément en japonais? Non, oui, voilà, tu joues en anglais ou pire.
Choisis en anglais la version.
Ou en français, effectivement, sur émulateur, ou alors en français sur GameCube en utilisant une GameCube piratée. Encore une fois, on vous explique comment faire, c'est pas très compliqué. Alors,
pour le coup, moi j'ai pas eu l'occasion de tester la traduction française, je sais pas si Zergy t'as eu le temps de le faire, toi.
Je l'ai juste lancé, j'ai chargé ma partie, j'ai vu que ça marchait bien, donc voilà.
J'ai
remarqué que ma partie elle avait 13 ans, ça fait 13 ans que j'y ai pas retouché. C'est horrible.
Oui, effectivement. Non, mais voilà, donc du coup, on peut conseiller le 1 et le 2, simplement pas vraiment la même expérience de jeu.
Ouais, et pour le coup,
je pense qu'on peut conseiller les deux quand même. Ouais.
Les deux et le 1 puis le 2, parce que pour le coup, même s'il s'appelle Origins, le second, il a bien été numéroté numéro 2 au Japon, et il y a une raison pour ça, c'est que, mine de rien, le 2 se base sur beaucoup d'événements du 1 en fait.
D'accord.
Effectivement. Il y a beaucoup d'éléments du 2 qui ont plus de sens si on a joué au premier.
D'accord. De toute façon, tous les personnages qu'on découvre 20 ans avant, notamment, ça quand même...
Voilà, et en fait, ça spoil aussi... Enfin, ça... Certains éléments un petit peu obscurs du 1 sont très bien expliqués dans le 2, donc du coup, en fait, ça... Je pense que si on joue au 1, on joue en 1 après, certains éléments... Alors, on n'aura peut-être pas le même goût, aussi. Quelques révélations du 2 qui remettent en perspective de manière un petit peu compliquée.
Je rappelle que l'important, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
Hein. Ça. Voilà. Et ne serait-ce que pour le système de jeu qui est beaucoup plus dynamique dans le second, revenir au premier, ça me paraît un petit peu.
Donc du coup, vaut peut-être mieux quand même les faire dans l'ordre, histoire si t'as apprécié le système de jeu du premier et que ça t'a accroché, logiquement le deuxième, ça devrait aller encore mieux.
Voilà, c'est ça. Et encore une fois, il y a des révélations du 2 qui sont aussi très croustillantes parce qu'on a joué au premier et qui remettent certaines révélations du premier en perspective. Donc c'est
Non, mais voilà, il y a un petit truc à faire. Alors, à quand un Baton Kaitos 1+2 Remake HD Remaster?
Faut demander à Namco.
Faut demander à Namco pour le premier. Parce que le second, c'est Nintendo.
Ouais, mais la propriété du truc, c'est Patrick Crescendo et Monolith partagé.
C'est une très bonne question. En tout cas, la partie, comme je dis, la partie artistique, c'est Monolith. Mais est-ce que le code n'appartient pas à Trick Crescendo? En tout cas, la partie sonore appartient à Trick Crescendo et Motoki Sakuraba. Donc, ça, c'est la partie un peu compliquée.
Ça va être compliqué.
Et alors, Baten Keto, avec une partie sonore complètement différente, ça ne marchera pas.
Ouais, non, c'est clair. Ça fait vraiment partie intégrante de l'expérience.
Voilà, ça fait partie du trip artistique. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'ils refassent. Effectivement des portages, ne serait-ce que voilà, pour qu'on puisse pouvoir les refaire et peut-être qu'ils traduisent Baten Kaitos Origins du coup.
Oui voilà, parce que là c'est une traduction officieuse. Hein.
Surtout qu'à vu à quel point Xenoblade est très apprécié, je pense qu'un petit par les créateurs de Xenoblade.
Oui, ça pourrait très bien le faire ça.
Mais effectivement pour le premier faut demander à Namco.
Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas ce qu'on fera dans 2 semaines parce que on improvise un petit peu au fur et à mesure.
Spéculation de l'E3, non? Parce que c'est l'époque.
Non. Quoi? Pardon? Excusez-moi. Pardon. Non, je sais pas. Écoutez, on va improviser de toute façon. On trouvera bien quelque chose d'ici 2 semaines. Au pire, j'ai un petit sujet de derrière les fagots que je proposerai à mes petits camarades en off, savoir si ça les intéresse.
Bah, vas-y.
Voilà, c'est un sujet de fond. En attendant, nous, de toute façon, on se retrouve donc mercredi prochain en podcast pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et dans deux semaines, ce ne sera pas la dernière émission. Dans la dernière émission, on va être plutôt du côté fin juin. Enfin, peut-être mi-juin cette année, exceptionnellement, parce que c'est vrai que là, on va pas avoir d'événement post 3. Okay. Oui, voilà, pour le reconfinement, exactement.
Ce sera le 2 juin du reconfinement.
Stop. Où on vous conseillera de rejouer Animal Crossing.
On refera encore une émission spéciale deuxième vague du confinement.
On va la syndiquer. Une émission deuxième vague, moi, ça me va
pour
très bien.
Pour ceux qui habitent dans le nord, la partie nord-est de la France, en rouge sur la carte.
C'est ça. Ça va repartir. Bref. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines. Ciao, bisous tout le monde.
Bisous.
Bye.